mesdames et messieurs, bonjour. Donc, désolé que je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde consacrée à Jules Verne sous la mer, plus largement à l'imaginaire marin. Pour ce faire, nous recevons trois auteurs. De gauche à droite, Nicolas Le Breton. Au milieu, Xavier Mauméjean. Et à droite, Lionel Daboust. Je prononce bien? Okay. Donc, je vais leur demander de se présenter brièvement, dans un premier temps. On va commencer par Lionel.
Bonjour. Donc, je m'appelle Lionel Daboust et je suis gentil. Je suis, à la base, moi j'ai un parcours un peu bizarre. Moi à la base je suis ingénieur halieute, alors c'est un titre un peu glorifié pour dire biologiste marin. Et j'ai obliqué dans l'écriture, donc j'écris de la fantasy, du thriller, mais la mer est jamais vraiment loin, que ce soit à travers la dimension symbolique de la mer ou aussi à travers sa faune, donc qui était ma spécialité, ma passion, qui est baleine et dauphin, et écologie de façon générale. Domaine dans lequel je traîne encore, puisqu'il m'arrive de partir comme volontaire scientifique sur des expéditions. Ça veut simplement dire que j'ai toute la joie des collectes de terrain et absolument pas l'envie de traiter les données.
Bonjour, moi c'est Xavier Mauméjean, je suis romancier, je travaille pour la radio, la télé, le cinéma. J'ai pas de rapport particulier de connaissance avec la mer, sauf que, en dépit de mon nom franco-français, je suis d'origine basque, et s'il y a bien un peuple marin, c'est les Basques. Et longtemps et souvent, j'accompagnais mon oncle qui était pêcheur à la pêche au thon. Et je sais pêcher et tuer les thons. Et je ne sais pas si ça me rend sympathique auprès de vous, mais je sais le faire.
Voilà, donc Nicolas Le Breton. Moi, je suis auteur au Mouton électrique, donc j'ai fait du. Différentes choses, entre autres du roman historique, comme ceci. Et puis là, donc, je mets un pied dans les littératures imaginaire avec un roman à la manière de Jules Verne, dans ce style qu'on appelle steampunk, une dénomination qui nous vient des États-Unis. Mais je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là, ce n'est pas l'objet. Et malgré mon nom, alors je suis peut-être celui de la table qui sait le moins de la mer, puisque je suis savoyard, même si je m'appelle Le Breton. Voilà. Donc effectivement, la mer, c'était quelque chose d'assez relativement distant, distant pour moi. Voilà.
On va commencer par toi, puisque tu émarges dans le même genre, enfin tu as émargé ton roman dans le même genre que Jules Verne. Donc quelles sont les influences qu'il a pu avoir sur ton écriture, et puis comment tu te rapproches de son héritage?
Alors, de manière générale, hein, le mouvement steampunk, c'est une littérature qui est née de cette de Verne, de Wells, hein, qui est parti aux États-Unis, qui est devenu tout à fait autre chose, mais qui nous revient maintenant, mais qui correspond pour nous Français, Européens, quelque chose de très ancré. Hein. C'est un imaginaire, une manière de. En fait, c'est un merveilleux scientifique. Une approche qui est une sensibilité qui reste très européenne. Et c'est vrai que Jules Verne, comme pas mal, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, quoi. Donc, et puis j'ai continué effectivement pendant très longtemps. Et donc voilà, donc les gens qui me connaissent bien depuis l'enfance, effectivement, m'ont retrouvé tout de suite dans ce que j'avais fait, parce qu'évidemment il y avait cette fibre vernienne, si vous voulez, qui était indéniablement dedans. Voilà.
Merci. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le roman 20 000 sous les mers de Jules Verne, qui se passe en partie sous les eaux. Je me tourne un peu vers Lionel. Comment toi, j'imagine que tu l'as lu aussi, le roman, comment tu as appréhendé justement le milieu marin, puisque c'est un peu ta spécialité. Quel sentiment tu as par rapport à ce qu'a fait Jules Verne dans ce domaine?
Le milieu sous les mers, j'ai lu il y a quand même relativement longtemps, donc je ne vais pas trop vous en parler de façon précise. Mais ce qui est vrai, c'est que. Alors, déjà, on a un peu tendance dans l'imaginaire populaire à placer, à dire comme étant le premier véritable auteur à parler de sous-marin et Jules Verne. C'est, en réalité, c'est Léonard de Vinci qui est le premier à poser ces histoires de parler d'un submersible. Lavoisier aussi avait fait des travaux, en l'occurrence. Il avait commencé à réfléchir, il avait, si je me rappelle bien, fait un submersible qu'il avait immergé dans le lac Léman. Un submersible appelé pour des raisons qui n'appartenaient qu'à lui, crochez-vous, Urinator. Verne, probablement, alors là je pense, s'inscrit dans cette tradition. Donc il présente quand même quelque chose, comme toujours chez Verne, hein, de relativement vraisemblable, fondé sur la science qu'on connaît à son époque. Aujourd'hui, il y a évidemment des tas de choses qui ne fonctionneraient pas pour des raisons de pression, par exemple, sans être trop technique, donc c'est au courant que plus on descend, mais y compris dans un engin submersible, plus la pression augmente. Et ça va se reporter également sur les gaz qui sont respirables. Et quand on fait un long séjour sous la mer, au bout d'un certain temps, pour des raisons de dynamique des gaz, donc nous on respire un mélange qui est principalement constitué de... Donc l'air respirable est constitué à 2/3 environ, un peu plus, d'azote, qui en ce qui nous concerne est un gaz totalement neutre, l'oxygène faisant approximativement 20%. Quand on augmente la pression de l'air, la dynamique de l'azote et de l'oxygène commence à réagir différemment, et on peut risquer des embolies, ce qui fait que quand on a des plongeurs de grand fond, qui sont appelés à rester très longtemps, donc à des pressions qui vont dépasser cette limite, on va remplacer par exemple l'azote par de l'hélium. En général, c'est un hélium et de l'oxygène, ce qui vous fait une voix très rigolote d'ailleurs. Et donc voilà, il y a des tas de choses comme ça qui ne sont pas prises en compte chez Jules Verne, mais c'est normal. En dehors de ça, c'est quand même une exploration aussi vraisemblable qu'il est possible, ce qui est la preuve d'un grand auteur de science-fiction, comme toujours, à partir de la technologie de son époque. Et au-delà de ça, je pense que quand même, si on retient 20 milieux sous les mers, c'est finalement pas tant pour l'exploration, le côté purement scientifique, mais pour le côté, la symbolique de liberté, le capitaine Nemo comme personnage rebelle, qui est ça, qui à mon avis, d'ailleurs, est une pierre angulaire de l'imaginaire marin depuis toujours, y compris à l'époque du roman d'aventure maritime, où si l'imaginaire pirate encore exerce un tel attrait sur nous, c'est qu'il y a bien cette image de liberté, de quand on est à bord d'un bateau, on est un homme libre. Et Nemo est l'ultime exemple de ça, probablement.
Effectivement, ce côté, cette symbolique de la liberté, elle se joue en partie sur le fait que le capitaine Nemo vit en totale autarcie des ressources de la mer. Donc, là, est-ce qu'il est vraiment crédible à ce niveau-là, ou est-ce que il aurait quand même eu besoin de se servir d'autres ressources?
Alors, si on regarde aujourd'hui avec alors bon, on triche, hein, c'est parce qu'aujourd'hui, avec la science d'aujourd'hui, par rapport à... moyennant suffisamment des technologies actuelles qu'on a, de culture, on peut parfaitement vivre de la mer, oui, bien sûr, il y a des tas de... Il y a des recherches en nutrition qui essaient de trouver comment voir, par exemple, pour cultiver des souches d'algues qui pourraient être nutritionnellement bonnes pour l'être humain et qui en même temps nécessiteraient des exploitations pas forcément plus environnementales, mais qui nécessiteraient donc du coup moins d'espace, qui seraient dans des réacteurs et donc qui nécessiteraient moins de moyens quelque part. À côté de ça aussi, il y a toute une branche de recherche qui explore beaucoup la dynamique des cyanobactéries qui sont j'en ai comme un abus de langage ici, mais qui sont descendantes directes d'une souche originelle des premières bactéries de la mer. En toute rigueur, c'est faux, mais qui permettent des échanges de gaz. Qui pourrait être très, très utile pour nous, alors je dérive, ça va pas avoir la question d'origine, mais qui par exemple sont de très bonnes fixatrices de dioxyde de carbone. Donc il y a certaines boîtes qui recherchent comment éventuellement cultiver des cyanobactéries pour éventuellement essayer de combattre l'effet de serre. Donc il y a dans la mer toute une richesse qu'on connaît, mais que finalement on ignore énormément, parce que pendant très longtemps on considérait que... peut-être d'ailleurs vous avez entendu parler de ça, pendant très longtemps on considérait que la seule vie possible était la vie sur cycle métabolisme acide de carbone à température ambiante. Donc en gros, la vie telle qu'on la connaît nous sur Terre. Plus on explore la mer, et notamment plus on explore des milieux extrêmes de très forte température, très faible température, très forte pression, on trouve par exemple ce qui montre à quel point il reste des choses à découvrir et qui peuvent faire progresser en dehors de l'attrait de la connaissance, faire progresser le savoir de l'espèce humaine et éventuellement sa technologie. On a découvert des cycles métaboliques qui sont pas fondés sur le carbone, en tout cas pas exclusivement, notamment sur les failles de grand fond, ce qu'on appelle les fumeurs noirs, où en fait il y a une chimie très, très intense, basée sur le soufre, etc. Je ne vais pas en détail. On a également découvert ce qu'on pensait totalement impossible, on a découvert des bactéries au fond de la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond, enfin le Challenger Deep, qui est le point le plus profond sur la planète, d'ailleurs 11 km. C'est-à-dire qu'on peut mettre l'Everest dedans, il reste encore 3 km. On a découvert, donc il règne une pression de 1000 atmosphères là-bas, c'est-à-dire une tonne par centimètre carré. En gros, vous prenez une petite voiture et vous mettez ça sur votre ombre. On a découvert des bactéries qui vivent là-dedans. Donc il y a tout un. La mer est peut-être par certains côtés, et c'est moins bien exploré que la Lune. Pour laquelle on peut faire des clichés, il n'y a pas de problème. La mer reste en grande partie inexplorée. La fosse des Mariannes, qui fait 2500 km de long sur 70 km de large, ça fait à peu près une zone de la taille de l'Amérique du Nord. On est allé deux fois dedans pour y rester 30 minutes. Donc il y a plein de choses à découvrir encore.
Je vais recentrer un petit peu le débat sur, sur la symbolique de la mer, parce qu'on a parlé effectivement de la liberté, mais il me semble qu'il y a d'autres thèmes qui peuvent se rattacher à la mer, comme l'aspect peut-être matriciel, peut-être d'autres. Donc je me tourne vers Xavier.
En fait, moi, je pense que le Nautilus est la première machine à remonter dans le temps dans la littérature de l'imaginaire. Nicolas m'a rappelé que 20 minutes sous les mers est écrit ou publié, je ne sais pas, 70, tu
70,
m'as dit.
Voilà. Mais il a mis 4 ans à le faire.
D'accord, donc encore plus. De mémoire, la machine à explorer le temps de Wells, ça doit être 95 ou 97, hein, c'est ça, 95. Et parce qu'en fait... déjà, Nemo, c'est une vieille plaisanterie de marin, puisque ça veut dire personne, qui est le nom que prend Ulysse pour s'échapper de l'antre du cyclope. Mais alors, pourquoi une machine à remonter dans le temps? Parce que au XIXe siècle, dans une physique qui est encore qui est pré-relativiste, on a une représentation du temps comme une forme absolue de la durée, et la représentation qu'on a du temps, elle est linéaire. Elle est encore très vivace de nos jours, d'ailleurs, la représentation linéaire du temps. Et donc, le temps est donné comme irréversible. Pour faire simple, on ne peut pas retourner en arrière. Et en même temps, le temps est souvent représenté comme un fleuve, le cours du temps, la fluidité du temps, c'est une métaphore qui est souvent déclinée quand on parle de la durée. Et donc si on associe l'idée que de l'irréversibilité du temps est d'un temps linéaire comparé à un élément liquide, on se rend compte en fait que le capitaine Nemo, qui va trouver sa vraie raison d'être dans l'île mystérieuse, puisqu'on comprend enfin tout, le capitaine Nemo, c'est le prince Dakar qui, lors de la révolte des Sipayes, a perdu son épouse et ses enfants qui ont été tués par l'armée anglaise. Ce qui a fait, on comprend l'objet d'un traumatisme chez lui. Il a donc consacré sa fortune et une part du Crédit Lyonnais, une petite parenthèse, c'est marrant, deux des plus grands méchants flamboyants de l'histoire de l'imaginaire, à savoir le capitaine Nemo et le professeur Moriarty, étaient clients du Crédit Lyonnais. Et en une espèce de temps très réduit, Crédit Lyonnais devrait quand même s'habituer à traiter. Peu importe. Nemo construit son sous-marin. Bon, pourquoi un sous-marin? Tout simplement parce que le sous-marin, si on l'associe à la métaphore du temps comme linéaire et liquide, le sous-marin, il réussit à contourner le phénomène d'irréversibilité, puisqu'il peut faire demi-tour, il peut descendre, il peut remonter, etc. Et donc, on comprendrait alors pourquoi, dans le 20 milieux sous les mers, le capitaine Nemo détruit des bateaux avec son sous-marin qui est un dard, il est prévu pour détruire, tout simplement parce que ce serait un événement à caractère obsessionnel. Une obsession, bien entendu, c'est un événement situé forcément dans le passé qui conditionne votre expérience présente. Ça, c'est la vraie définition de l'obsession. Vous ne pouvez pas être obsédé par la Coupe du Monde à venir. C'est pas possible. C'est toujours par rapport à un événement passé. Donc, Nemo est pris dans un phénomène obsessionnel qui fait qu'il retourne continuellement dans le passé. Il revit cette tragédie, ce qui lui permet de retourner en arrière avec son sous-marin. Et donc, avec le sous-marin, il invente la possibilité d'un temps réversible, puisqu'il peut faire demi-tour. Alors, c'est un temps non pas, bien sûr, objectif, c'est pas un temps extérieur. C'est le temps que, quelques années, 30 ans après, Freud va étudier. C'est le temps intime, la durée intérieure, le vécu de conscience. Et donc, en fait, on a affaire à une sorte de névrose ou de psychose illustrée. C'est sa machine à remonter dans le temps. Il revit sans cesse et sans cesse constamment son événement traumatique. Et il en sort enfin guéri dans l'île mystérieuse, précisément au moment où il est devenu insulaire. Il est sur une île, il a quitté l'eau, et où son sous-marin est détruit. Et je pense que... Alors, bien sûr, je pense pas que Jules Verne y ait mis tout ça, mais disons qu'il anticipe des lectures qui vont être effectives, elles, moins de 30 ans après, chez Freud, chez Bergson, comme ça. Et je me demande, alors, bien sûr, on ne peut pas la qualifier, le sous-marin, le Nautilus, on ne peut pas le qualifier de machine à remonter dans le temps dès lors que Verne ne l'a pas prévu comme ça, mais il joue ce rôle, en tout cas, en tant que tourment intérieur, en tant que temporalité, en tant que durée de conscience. C'est en tout cas comme ça que j'aime le lire.
Moi, j'aimerais que Nicolas nous parle un peu du côté, de l'influence qu'est le roman sur les vers, sur le mouvement steampunk, de façon globale, parce que je pense qu'effectivement, le Nautilus est une machine à remonter dans le temps, mais c'est aussi une machine de guerre qui fonctionne grâce à des technologies qui jusqu'alors étaient peu utilisées. J'aimerais avoir ton avis sur la question.
Le film, c'est ça.
Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Étrangement, c'est même pas tellement le livre. On peut même dire qu'en fait, le 20 milieux sous les mers échappe à beaucoup des critères du roman steampunk, ne serait-ce que par la technologie, parce que dans le steampunk, le truc habituel, bah, c'est la vapeur, justement, c'est qu'on est dans l'ère victorienne, etc. Tandis que là, on apprend que le Nautilus fonctionne avec l'électricité, et en plus pas n'importe quelle électricité, pas l'électricité commune, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une électricité, enfin, à le lire maintenant avec des yeux modernes, on a l'impression qu'il a surtout un bon truc sur générateur nucléaire, là, il a un truc qui carbure, parce que des fois il fait des trucs qui sont quand même bien.
Ce qui expliquerait que dans les mystérieuses, ils sont tous morts, tout l'équipage est mort d'un mal inconnu.
Oui, tout à fait. On pourrait refaire le livre, effectivement. Mais c'est vrai que nous, maintenant, sachant ce que l'on sait, on a du mal à imaginer autre chose. Parce qu'effectivement, il nous parle de sodium, il nous parle de la mer qui lui fournit du sodium, qui lui permet de faire des batteries bien plus efficaces, etc. Bon, il fait toute son explication technique comme ça, ou paratechnique, hein, je ne suis pas spécialiste. Et donc, effectivement, sous bien des points de vue, ce n'est pas, ça ne pourrait pas être un roman steampunk, ce serait une lecture a posteriori. Mais voilà, et il y a cette technologie, il y a des différences, et finalement, ce qui a beaucoup influencé le mouvement steampunk, ce qu'on était en train de dire, c'est le film. Hein, je pense que tout le monde a un peu les images en tête du combat du Kraken contre le Nautilus. Ces espaces avec les tôles boulonnées, etc., et tout ça, ça vraiment, c'est des choses qui sont qui ont vraiment fait rentrer, je pense, c'est ce film là qui a fait rentrer cette esthétique, et je parle bien d'esthétique à ce niveau là dans l'inconscient collectif. Et parce que le mouvement steampunk tel qu'on le connaît, c'est principalement maintenant un mouvement esthétique, même si à la base il y a eu aussi toute une littérature dans les années 80-90, qui s'est basé là-dessus. Donc c'est une influence évidente, mais une influence indirecte. Ça, et puis évidemment l'époque, le contexte, etc.
Tu viens d'évoquer le Kraken, qui est l'un des monstres marins légendaires. C'est vrai que la mer permet pas mal de fantasmes, de, voilà, c'est pas l'imagination vraiment de s'évader. Du coup, j'aimerais savoir, auprès de Lionel, si ce genre de créature a réellement existé. Voilà.
Je crois que j'ai juste dire une petite chose, ouais,
parce que là, on change de... Pourquoi, parce que tout à l'heure, il a été dit que Nemo, c'est un symbole de liberté, mais... quand on prend le Nautilus, Nemo, il a un super salon, une magnifique bibliothèque, il a un orgue, comme tout maître du monde ou associé qui joue de l'orgue, et il y a une cellule, ils improvisent pas une cellule dans le Nautilus, il est prévu une cellule déjà. Donc on pourrait aussi s'étonner de la hiérarchie des conditions de vie de... du capitaine Nemo et de son équipage, quand même. C'est tout ce que je voulais dire, mais...
alors, donc sur alors déjà, sur le Kraken, c'est un exemple intéressant parce que c'est vrai que c'est une créature qui hante l'esprit humain depuis bien longtemps et dont la réalité, donc le prétendu calmar géant, sur lequel on s'interrogeait beaucoup et... pendant très longtemps, on disait non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et en fait, on commence à avoir des... Ça montre à quel point on ignore beaucoup de choses sur les grands fonds. Comme quoi, et ben effectivement, ça existerait peut-être bien. Alors, c'est impossible qu'une bête comme ça puisse remonter à la surface. Parce que elle est habituée à des conditions de pression qui font qu'elle n'exploserait pas, mais ce serait l'équivalent à pression ambiante. Sur le rostre des cachalots, donc qui sont de plongeurs de très grands fonds qui se nourrissent de céphalopodes de taille considérable, on trouve des empreintes de ventouses donnant l'impression qu'effectivement il y a des Cthulhu qui se baladent sous la mer. Concernant l'envergure des animaux marins, en fait il faut voir une chose, c'est que bon, la vie est évidemment née dans les océans. Pourquoi ? Parce que de façon générale, tout simplement, la mer est un milieu qui est, l'eau est un milieu stable, beaucoup plus stable pour la vie que le milieu aérien. Donc la milieu aquatique, de façon générale, fournit beaucoup moins de contraintes à un système vivant que le milieu aérien, là où on se dessèche, on est obligé d'avoir une peau qui nous permet de conserver l'humidité. Tous les animaux terrestres pour la reproduction sont obligés d'avoir recours à la fécondation interne, par exemple, sinon les gamètes meurent, alors que dans l'eau il n'y a pas ce problème là. Dans l'eau on a beaucoup moins de variations de température, c'est un milieu qui est beaucoup plus... Donc voilà, donc l'eau permet tout un tas de variations possibles, et bon, le plus grand animal que sur Terre actuellement, en tout cas on espère pour encore un moment, c'est la baleine bleue qui fait la bagatelle de 250 tonnes. Mais c'est une naine comparée à, je n'ai pas les chiffres en tête, mais comparée aux grandes espèces de baleines et de requins, par exemple du Crétacé, où on avait des choses encore plus énormes. Le nom n'en vient pas, donc j'ose pas vous dire une bêtise. Mais donc il y avait des... après ça, bon, ça c'est donc ça pose tout un tas de problèmes logiques, je ne rentre pas dans les détails, mais la mer, on a retrouvé des fossiles et des squelettes de guillemets monstres marins au sens gigantesque, plus grand encore que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui l'expérience prouve que il y a des espèces qu'on connaît toujours très mal, parce que par exemple des espèces de grands fonds aussi. Et à moins de pouvoir tomber dessus par hasard, c'est trop loin aussi des côtes pour que éventuellement des cadavres viennent s'échouer. Donc on puisse étudier l'espèce. Donc pendant l'exploration, il y a une projection aujourd'hui, là si le sujet vous intéresse, auquel du film de James Cameron, un réalisateur, mais qui est également... réalisateur de films de science-fiction à mi-temps, explorateur de grands fonds à mi-temps, qui a fait la deuxième expédition de l'humanité dans la fosse des Mariannes. Et au cours de ses plongées de test et de récupération d'échantillons, je crois qu'il a fait 6 plongées seulement dans différentes fosses, ils ont identifié la bagatelle de 54 nouvelles espèces, ce qui est énorme. Donc, il reste beaucoup de choses à découvrir sur la planète, et en particulier dans les fonds marins.
Je voudrais savoir s'il y a une question dans la salle. Sur Jules Verne, sur les différents points qui ont déjà été abordés par les auteurs, ou leur rapport à la mer, éventuellement.
C'est juste par rapport à la symbolique. Ce serait plus par rapport à la symbolique. Est-ce que la symbolique on va dire du Nautilus et le fait que ce soit dans la mer, ce ne serait pas une représentation aussi d'une vie interne de l'être humain, avec toutes les tribulations qui peuvent se passer?
C'est joli en tout cas. C'est joli.
C'est très joli, je ne sais pas, moi je pense que le Nautilus, c'est ça, en tout cas moi je l'ai vu comme ça. Ce qui est vrai, c'est que par exemple chez les Grecs anciens, le bateau est une des métaphores qui revient le plus souvent quand elle est associée à la politique. Par exemple, on la trouve très fréquemment chez Platon, où l'âme de l'être humain est comme un pilote dans son vaisseau. Donc là, en fait, ça rejoindrait, oui, tout en parlant, je réfléchis, c'est ce que vous dites. L'âme de l'être humain est souvent comparée au pilote d'un bateau, le corps étant le vaisseau. Et chez les Grecs, le bateau est le symbole de la cité, tout simplement parce qu'on est forcé de vivre ensemble. Et le bateau, c'est un élément isolé, c'est l'étymologie d'une île, c'est une île qui flotte, et on ne peut pas faire autrement dans l'équipage de vivre ensemble. Et c'est cette idée que en vivant ensemble, on va se réguler et on va apprendre la paix, sachant que chez les Grecs anciens, en plus, le collectif passe toujours avant l'individuel. Ce qui compte, c'est la cité, c'est le groupe. Et, en tout cas, vous avez raison. Chez Platon, en tout cas, oui, c'est marrant. Lui, il le pense comme ça. Et de manière générale, c'est en tout cas une métaphore de l'être humain, le bateau. C'est vrai.
Moi, je pense qu'il y a un lien effectivement très fort entre l'image de la mer et la vie intérieure de l'être humain, puisque la surface est connue, ne serait-ce que parce qu'elle est relativement toujours identique. Mais on parle évidemment sur des profondeurs de l'inconscient. Le plus on descend dans les profondeurs, plus la lumière ne perce qu'environ, en fonction des endroits, mais grosso modo 30 mètres de profondeur, ce qui est rien. Je pense qu'il y a un lien très fort symbolique entre la mer et la psyché humaine, entre le conscient en surface, avec en plus cette image de liberté que je disais tout à l'heure, où finalement. On s'espère tous capitaine de notre propre bateau, se mettre à bord après Dieu, et ou la destinée, on en parlait hier. Et à côté de ça, vient toutes les profondeurs, les abysses aussi. On a des passerelles de vocabulaire assez fortes.
D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est que Nemo est effectivement un homme libre, mais en même temps, il est effectivement obsédé, et donc par définition, il peut pas être libre. Donc il y a cette aussi dualité dans le personnage. Qui est effectivement très. Et puis on retrouve cette sensibilité justement par rapport à la mer, par rapport à la surface, par rapport à tout ça. Effectivement, on est tout à fait dans cette optique-là. Ouais.
Ouais, puisque Nicolas en parle, par exemple, rien que le choix de Nemo et Jules Verne est un écrivain français qui écrit en français, donc en l'appelant personne, c'est amusant parce que le mot personne en français a. Deux sens qui sont totalement opposés. Soit ça désigne un individu singulier, c'est une personne, soit ça désigne l'absence d'individu, c'est personne. Et Nemo, ce qui est intéressant, c'est qu'il nie son individualité après la mort de sa famille, si on reconstitue la chronologie propre au personnage. Il n'est plus personne, et en voulant n'être plus personne, et en revivant sans cesse ce drame, il s'enferme dans ce qu'il est, à savoir une personne, et il recouvre sa dignité de personne en tant qu'individu dans l'île mystérieuse quand il s'ouvre enfin aux autres, quand il va
aider les autres. Et Jules Verne, on ne peut que lui prêter l'importance des mots. Il savait très bien que ce qu'il faisait en l'appelant personne, justement.
Il y a d'autres questions ?
Pour en revenir à la personnalité de Nemo, ce que je trouve intéressant chez lui, c'est que, d'ailleurs vous l'avez bien dit, c'est que c'est une incarnation d'une liberté, mais pour moi, à la lecture de 20 milieux sous le mer, c'est une liberté oppressante, vraiment oppressante. Et j'en reviens à ce que disait Lionel Davoust, c'est-à-dire le fait qu'il y a des cachots dans son Nautilus. Et c'est étonnant de voir quelle société il a recréée. Finalement, quelle est la société qu'il a créée ? Finalement, cette société-là, elle n'est pas libre du tout quand on y pense.
C'est exagéré, tu disais.
Non, oui, et puis alors moi, à la relecture, parce que c'est pareil, j'avais lu 20 milieux sous les mers il y a longtemps, donc j'ai relu, et une des choses qui m'a le plus frappé, c'est que c'est en fait un huis clos entre trois personnages, puisqu'il y a Aronnax, le scientifique. Son serviteur est complètement et très volontairement, il s'appelle Conseil, d'ailleurs, il n'a même pas un nom d'homme, donc voilà, il est juste là pour fournir le, voilà, faire le sparring partner, quoi. On a donc le baleinier et on a Nemo. L'équipage n'est ni nommé et a à peine un visage, et à peine vaguement on reconnaît le second. Les autres sont complètement, on ne sait même pas le nombre de membres d'équipage du... et on ne le sait à aucun moment du roman. Donc c'est vrai que c'est assez frappant à ce niveau-là.
Ce qui est marrant pour la liberté, vous l'avez dit, c'est une liberté oppressante. Il y aurait un joli jeu de langage à faire justement en rejoignant le Lyonnais, cette fois-ci sous la notion de pression... mais justement une liberté tendue, une liberté écrasée, parce que c'est une liberté qui est vécue quand même sous le poids de cette tragédie qui a fait que Nemo est devenu Nemo. Alors pourquoi d'un côté, parce que si on prend le personnage tel, c'est important tel qu'il apparaît dans Les Mystérieuses, c'est un prince, mais peut-être que son équipage n'a pas de nom, parce que bien qu'il lui nie toute individualité et tout, il n'en demeure pas moins un prince, et donc c'est ses sujets qui n'ont pas leur mot à dire. Il y a quand même gardé peut-être de vilains travers, notre cher capitaine.
Oui.
Question ? Non ? Bien, si les auteurs n'ont.
Alors, j'avais peut-être voulu une petite.
Moi, ce qui m'a frappé justement à la relecture aussi, bon, d'une part, c'est que le roman. Est très fort dans le sens où, à certains moments, on a vraiment l'impression de voir le monde des hommes depuis l'extérieur, et de, voilà, on est dans la mer, et on ne fait qu'effleurer les côtes, et ça donne une impression assez puissante, et qui reste, à mon avis. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est le rapport à ce qu'on appelle, nous, de nos jours, l'écologie. Et les rapports, justement, de l'homme par rapport à la mer... qui sont... c'est tout à fait fascinant dans le roman 20 minutes sous les mers, parce qu'il y a déjà tout, et c'est extrêmement moderne, et c'est extrêmement actuel à ce niveau-là, parce qu'on a toute cette... il y a à la fois un constat totalement objectif et même désabusé de la part de Verne, qui dit, à tel endroit, il y a telle espèce qui est complètement massacrée par l'homme, qui va complètement disparaître. Hein. Par exemple, il prend donc c'est des lamantins ou des dugongs. Enfin, il y a tellement d'espèces qui sont nommées qu'au moment on a un peu l'esprit qui tourne. Mais donc qui dit qu'ils étaient donc pacifiquement au sortir d'un grand fleuve et qu'ils mangeaient toutes les algues qui s'accumulaient par là, et que comme les hommes ont massacré tous les animaux, eh bien les algues ont commencé à être surabondantes, pourrir et à provoquer des maladies chez les hommes. Il vous raconte ça, et dans le paragraphe qui suit, il dit « Ah mais on avait quand même besoin de viande, donc on en a tué 10 ». Voilà, donc on a tué 10 de ces créatures. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé très très fort justement, c'est qu'il y a cette espèce d'équation absolument insoluble de l'homme par rapport au milieu naturel, qu'on sait pertinemment qu'on est en train de détruire les choses, mais qu'on le fait quand même. Et je trouve qu'effectivement, il y a ce... on pourrait parler davantage des personnages aussi qui incarnent bien chacun cette attitude par rapport à la mer, au milieu naturel, mais qui sont un peu toutes les attitudes de l'homme, ambiguës, contradictoires par rapport à ça. Et ce, voilà, ces catastrophes écologiques qu'on sait qui vont arriver, hein, c'est marqué noir sur blanc dans 20 milieux sous les mers, mais que, voilà, on est des humains, on a des besoins, et voilà.
Personne n'a rien à ajouter ou demander. La table ronde. Je tiens à remercier les auteurs d'être venus et d'avoir joué le jeu. Je vous remercie tous d'être venus et je vous souhaite de continuer un bon salon des onériques. Merci.